Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les préparatifs de la rentrée scolaire prévue en principe ce 5 septembre vont bon train dans les écoles de la ville de Beni, au Nord Kivu. Dans ce journal, notre reporter fait la ronde dans quelques écoles. Le conflit intercommunautaire entre les Tek et les Yaka insécurise la route nationale numéro 17 entre la ville de Bandundu et le village Mungata. Ici, au moins 5 personnes ont été tuées hier, le 30 août. Sur cette route, les assaillants armés ont érigé des barrières et procèdent à un contrôle des pièces d'identité à la recherche des Yaka ou Mbala. Enfin, nous recevons dans ce journal Emmanuel Rouhouye Muhozi. Il est député provincial du Nord Kivu. Il est à Kinshasa pour solliciter des autorités du pays un peu plus de présence des militaires FARDC engagés au front, ainsi plaider aussi pour une assistance humanitaire à des milliers de personnes déplacées de la région de Bunagana, toujours occupées par le M23. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais tout d'abord, cette nouvelle, une vingtaine de hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État, des sièges et membres de la Cour des comptes prêtent serment ce mercredi devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Ils ont été nommés par ordonnance depuis le 30 juillet dernier. Certains parmi eux sont promis et d'autres remplacent ceux allés à la retraite. Parmi ces hauts magistrats figurent Vonde Mambu Firmin, nommé procureur général près la Cour de cassation, Kisula Betty Kayeye, premier avocat général près la Cour de cassation. Deux femmes font partie de la vingtaine de hauts magistrats ayant prêté serment. Madame Odiononde Marthe, nommée récemment premier président du Conseil d'État. Madame Mobele Bomanajan fait partie désormais des avocats généraux près le Conseil d'État aux côtés de ses pairs Kachama Dintienda et Kassanda Kitengi. La rentrée scolaire s'annonce bien dans la ville de Beni, même si jusque-là il s'observe une timidité sur le marché des ventes de fournitures scolaires. Les préparatifs vont bon train au sein des écoles. Le reporter de Radio Kapi a fait la ronde de quelques écoles. Voici son reportage.
Au complexe scolaire Marie Corazon, une école conventionnée catholique a agréé. Les inscriptions ont commencé depuis le 25 août dernier pour les nouveaux venus et la confirmation de place pour les anciens. Tout est fin prêt pour débuter l'année scolaire. Lundi prochain, fait savoir la sœur Lucie Cavo-Messo, directrice de l'école.
Il y a un bon nombre de parents qui sont en train de venir inscrire leurs enfants et les anciens aussi sont en train de passer pour la confirmation des places.
La réussite de l'enfant dépend des réalités du départ, a mentionné une dame venue confirmer la place de son enfant.
C'est mieux de venir avant. C'est dans le cadre de le préparer psychologiquement qu'elle a son uniforme, elle a cartable et cahier, place confirmée. En tout cas, elle se sent bien.
Juste à côté se trouve l'Institut de l'Avenir de Beni IAB, une école privée. Une dame rencontrée sur place estime qu'elle trouve nécessaire d'amener son enfant dans une école privée au regard des grèves souvent observées dans les écoles publiques.
Avec la gratuité, je vois que ça ne va pas. Tu dors aujourd'hui en sachant que demain, l'enfant va aller à l'école. Tu arrives demain, il y a grève de 2 mois, 3 mois. Dans les privés, il n'y a pas de grève.
Sur le marché des fournitures scolaires, quelques parents rencontrés disent ne pas disposer de moyens nécessaires pour s'en procurer au regard du prix des fournitures qu'ils jugent élevées.
Pendant ce temps, à Kananga, l'Union congolaise des femmes de médias ICOFEM a assisté hier mardi plus d'une quarantaine d'enfants à l'orphelinat Mère de l'Espérance avec des kits scolaires. Ils ont reçu des objets classiques, notamment des cahiers, des stylos, des crayons et autres. Une façon pour les femmes journalistes d'aider ces enfants à bien démarrer l'école, a indiqué la coordonnatrice de l'ICOFEM au Kassai Central. Les bénéficiaires ont salué ces gestes et voudraient voir d'autres actions du genre suivre avec d'autres bienfaiteurs. Autre nouvelle, dans la province du Maniema, la chefferie de Matapa, située à 60 km de Kindu, dans le groupement Yenge, village d'Ifuma 2 en territoire de Kibombo, fait face aux plusieurs difficultés, notamment sur le plan éducationnel, sanitaire et de l'agriculture. Le chef intérimaire de Matapa l'a dit lors du passage de notre reporter dans cette entité. Florence Kizalunga nous rend ce reportage.
Contrairement aux chefs liés à l'intérieur de notre province, les populations font face à plusieurs difficultés. Dès notre passage, nous avons constaté que la population n'a pas de sources d'eau potable aménagées, les enfants étudient dans de mauvaises conditions. La plupart des écoles que nous avons vues ne sont pas bien construites, moins encore équipées. C'est le cas pour l'école primaire Victoire qui est en rameau, mais grâce aux efforts d'un individu, Salomon Id Kalonda, cette école se voit aujourd'hui construite en matériaux durables. Les chefs intérimaires des Matapa Ketumbe Masoudi Kiré plaide pour l'implication des autorités, ONG humanitaires et hommes de bonne volonté.
80% des écoles ne sont pas bien construites. Les écoliers, les élèves étudient dans de mauvaises conditions. Et même les accoudoirs, c'était difficile d'y trouver. Les problèmes aussi des eaux pour avoir l'eau potable, c'est difficile, nous n'avons pas vraiment de sources aménagées. En même temps, nous avons un problème de l'agriculture, là où la production pose des problèmes parce qu'il y a souvent la maladie qu'on appelle communément bombolengue ici chez nous, qui est en train de ravager les paddies. Et cela vraiment fait un problème que nous faisons face.
Les chefs intérimaires de Matapa plaident aussi pour la construction d'une salle de réunion dans son entité. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Insécurité totale sur la route nationale numéro 17 entre la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, et le village Mungata dans la province du Maindombe. De nouvelles violences liées au conflit intercommunautaire entre les Teke et les Yaka au territoire de Kwamout dans la province du Maindombe ont fait au total 5 morts en date du 30 août 2022 sur cette route. Des sources concordantes renseignent que des assaillants armés ont érigé des barrières sur cette route et procèdent à un contrôle systématique des pièces d'identité des passants à la recherche des personnes des tribus Yaka ou Mbala afin de les tuer. Irène Mboma nous fait le point.
D'après plusieurs sources sur Abandundu, y compris les chargés de communication du gouverneur du Kwilu qui revenait de Kinshasa mardi avec le ministre provincial des Finances, Papi Nitete, les assaillants armés semblables au peuple Teke ont érigé plusieurs barrières sur la route nationale numéro 17, notamment au niveau du village Kabankou, situé à près de 25 km du chef-lieu du Kwilu. Cyril Ekwe indique qu'à ce niveau, ils ont vu par terre 5 corps de personnes violemment tuées. Témoignage.
Nous sommes arrivés au village Kabankou. On a vu 4 barrières. À notre présence, nous avons vu 2 morts qu'on a abattus vivement et nous avions vu comment est-ce que des jeunes étaient en train d'identifier le passant taxman des motos et les propriétaires des véhicules privés. On demande la carte d'électeur. Lorsque vous présentez les indices de quelqu'un de la province du Kwango, entre autres Muyaka, ou de la province du Kwilu, entre autres Mumbala, vous êtes un monsieur à abattre. Nous avions vu 5 morts par terre. En tout cas, cette route est en insécurité totale.
Pour sa part, le vice-gouverneur du Kwilu, Félicé Kiwai, reconnaît cette insécurité sur la dite voie et appelle sa population à la prudence. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
En Ituri, des miliciens de la Kodeko ont attaqué mardi pendant la journée la commune rurale de Mongwalou à 85 km au nord de Bunia dans les territoires de Djougou. Ils ont envahi une partie de cette entité où ils ont pillé et incendié plus de 10 boutiques et 30 maisons de la population. Selon des sources locales, les combats entre les FARDC et ces groupes armés se sont poursuivis jusque ce mercredi matin dans la zone avec comme conséquence les déplacements de nombreux habitants. Isaac Rimoyopi.
Des miliciens de la Kodeko venus en grand nombre se sont introduits mardi vers 11h dans au moins 3 quartiers de Mungwalou, Chouni, Depo et Plaine Kanga. Selon des sources de sécurité, leur cible était l'état-major des FARDC qui voulait faire libérer leurs compagnons détenus sur place. Pendant leur intrusion, ils ont pillé plusieurs boutiques et magasins. Ils ont ensuite mis le feu à au moins 10 maisons de commerce et plus de 30 habitations. Un policier a été également blessé et est admis aux soins à l'hôpital général de Mungwalou. Les FARDC sont intervenus pour déloger ces assaillants qui ont été repoussés dans la soirée après des affrontements qui ont duré quelques heures. Un calme précaire a été observé la nuit et les combats ont repris ce mercredi matin à la périphérie de Mungwalou où des détonations d'armes ont été attendues. Les habitants de certains quartiers se sont retirés dans des endroits sécurisés dans la commune de Mungwalou et d'autres ont trouvé refuge dans des villages proches. Le bourgmestre de cette commune indique que l'armée contrôle toute la cité minière et continue de faire les ratissages pour garantir la sécurité dans ses milliers. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, toujours en Ituri, une nouvelle incursion des rebelles des ADF a été signalée mardi soir dans le centre de Biakato, à plus de 75 km de Mambasa centre. Selon la société civile locale qui cite un des rescapés, le bilan provisoire est de 5 morts. Les victimes se trouvaient dans leur champ dans le village de Kota Okola, à la limite avec la province voisine du Nord Kivu. L'ennemi qui voulait à tout prix saboter une usine de savonnerie de la place a été repoussé par des militaires au niveau du quartier Lalia à Biakato centre. De son côté, l'armée affirme avoir neutralisé un ADF dont le corps a été brûlé par la population. Plusieurs munitions ont été également récupérées, ajoutent des sources militaires. Le calme est revenu après le retrait de ces rebelles dans la zone. L'administrateur du territoire appelle la population à la vigilance et à collaborer avec les forces de l'ordre. Autre nouvelle, parlons de cette déclaration de Martin Fayulu Madidi, président du parti Engagement Citoyen pour le Développement SID, membre de la Mouka qui défraie la chronique et suscite beaucoup de réactions. Au cours d'un message adressé au peuple congolais ce mardi 30 août, ici à Kinshasa, il a affirmé, je cite, « Je suis profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à 21 000 $ par mois en violation flagrante de la loi budgétaire. » Fin de citation. Les détails avec Paul Matendo.
Dans son message, Martin Fayulu Madidi souligne que les députés de la RDC sont mieux rémunérés que ceux de pays riches comme la France et les États-Unis. Il est établi, selon lui, que depuis janvier 2022, un député national touche 21 000 $ américains par mois. Pour le président de l'ICD, c'est de la corruption à grande échelle, gabegie et pillage et honte des finances publiques. Il ajoute, je cite, « J'exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale. » Martin Fayulu Madidi dit « pas comprendre que dans un pays comme la RDC, où 70% de la population vit avec moins de $2 par jour, un député national soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. À travers ce message, il s'interroge, comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'université sont en grève puissent augmenter de plus de 100% le salaire de ces députés nationaux.
Parmi les réactions à cette déclaration de Martin Fayulu Madidi, selon laquelle un député national touche 21 000 $ par mois, il y a notamment celle du collectif des députés nationaux de 26 provinces qui qualifie de calomnie et de diffamation contre les élus du peuple. Pour sa part, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, appelle le bureau de l'Assemblée nationale à clarifier cette question en publiant les émoluments effectifs des députés nationaux. Grâce à Mzati, nous en parle dans ce reportage.
Pour le président du collectif des députés nationaux des 26 provinces, la déclaration de Martin Fayulu est erronée et vise à soulever le peuple congolais contre l'Assemblée nationale. Sans donner des chiffres, le député Iratian Gracien de Saint-Nicolas affirme que la rémunération des députés n'atteint même pas 30% des chiffres donnés par Fayulu.
On prétend que nous touchons 21 000 $, non, c'est tout à fait faux, nous n'atteignons même pas 30%. Et notre salaire n'a même pas changé depuis 2021, 2022, nous sommes pratiquement dans les mêmes niveaux de paiement. Donc nous invitons et aussi Martin Fayulu à pouvoir chercher des informations auprès de ses députés. Il y a des députés de l'ICD qui sont à l'Assemblée nationale. Ils participent à tous les travaux. Ils sont là, dans toutes les séances plénières, même là où il y a le contrôle des finances de l'Assemblée nationale.
C'est scandaleux si ces émoluments sont attestés, rétorque pour sa part l'Association congolaise pour l'accès à la justice. D'après son président, la CAJ a déjà déclenché ses enquêtes à son niveau. Maître Georges Kapiamba.
Allouer mensuellement à chaque député national des émoluments de l'ordre de 21 000 $ constituerait un scandale parce qu'à l'antipode de la politique du peuple d'abord prônée par le président de la République et impliquant la réduction du train de vie des institutions.
Contacté à ce sujet, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le professeur André Mbata parlent d'une contre-vérité qui ne mérite pas la réaction du bureau.
Autre nouvelle, libération hier à Matadi, chef-lieu du Congo central, de 32 enfants en conflit avec la loi qui était en détention à la prison centrale de Matadi. Cette remise en liberté est le fruit du plaidoyer du gouverneur de province, Guy Bandou, auprès du tribunal pour enfants de Matadi, en vue de réunifier ces enfants avec leurs familles. À l'issue de cette cérémonie qui a eu pour cadre la prison de Matadi, les problèmes cadrant avec les conditions carcérales des enfants, tout comme de tous les autres détenus, ont été soumis à l'autorité provinciale. Nana Plurich Mambo.
La prison centrale de Matadi ne dispose que d'une cellule en lieu et place d'un établissement de garde et d'éducation des enfants âgés. Cela fait que les enfants en conflit avec la loi partagent la même cour avec les adultes. Les plaidoyers de libération menés par le gouverneur de province Guy Bandou auprès de leur juge naturel qui est le tribunal pour enfants a pour objectif de les réunifier avec leur famille conformément aux prescrits de la loi portant protection de l'enfant. Profitant de cette occasion, Arlette Nzati, la présidente du tribunal pour enfants de Matadi, a plaidé auprès de l'autorité provinciale en faveur de la construction d'un établissement de garde et d'éducation des enfants, de la dotation d'une subvention à cette juridiction et d'un charroi automobile pour le transport des enfants. Apollonia Longo, directrice adjointe de la prison de Matadi, aborde aussi dans les mêmes sens.
La surpopulation qui y règne rend vulnérable la situation de nos pensionnaires et au moment de votre visite, les magasins de la prison ne regorgent que quelques sacs de riz et quelques kilos d'haricots qui ne nous permettra pas de prendre en charge l'alimentation des détenus jusqu'à demain matin. La situation sanitaire des détenus pose aussi problème.
Le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a émis le vœu de voir ses enfants retourner sur le chemin de l'école ou dans un centre d'apprentissage des métiers. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Et puis, baisse de la production de maïs dans les territoires de Sandoa, province de Lualaba. Conséquence, il s'observe une rareté et une hausse de prix de cette denrée de première nécessité pour de nombreux ménages. La société civile locale plaide pour l'intervention du ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage de cette province en faveur notamment des fermiers pour que l'année prochaine les insuffisances constatées soient comblées et que la production soit accrue. On écoute Polydor Moutombe, président du Parlement pour Enfants de Sandoa, joint par Jean Gandou.
Les sauts de maïs qui se vendaient à 1500 francs s'achètent actuellement à 2500 francs. Les raisons évoquées sont liées à la rareté de ces produits. Le bureau de l'inspection du développement rural démontre que l'apport de l'engrais chimique par le gouvernement provincial pour la première campagne, l'espace culturel dans l'ensemble avait donné la production de 135 000 tonnes de maïs. Pour la deuxième campagne, la production était de 230 000 tonnes. Pour la saison dernière, il y a eu chute de production par manque d'intrants et d'encadrement de petits et gros planteurs par les agronomes de ce secteur, parce que ces agronomes n'ont pas de moyens pour se déplacer vers de fermes, là où les gros planteurs et les petits planteurs exploitent leurs champs. Les gros planteurs n'ont produit que 150 tonnes par leur effort, et ce qui est insuffisant, raison pour laquelle nous demandons surtout au ministère de l'Agriculture de trouver des solutions rapides pour pallier à ces fléaux en dotant des motos, des vélos aux agronomes et en appuyant également les petits et gros planteurs avec des intrants agricoles.
Actualité internationale.
Le constat de la situation en Libye est alarmant pour les Nations Unies. Après les affrontements entre les groupes armés qui ont eu lieu à Tripoli, la capitale, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi pour débriefer de l'avancée du processus électoral, seule issue selon l'Organisation internationale pour que la Libye accède à la paix.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Emmanuel Rouoyé-Mouhonzi. Il est député provincial du Nord Kivu. Il est à Kinshasa pour solliciter les autorités du pays un peu plus de présence des militaires engagés au front, aussi plaider pour une assistance humanitaire à des milliers de personnes déplacées de la région de Bounagana, toujours occupée par le M23. Il s'entretient ici avec Jean-Claude Lokidile. Suivez.
Emmanuel Ngaruye-Mouhonzi, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous retrouvez à Kinshasa. Pourquoi avez-vous décidé finalement de venir rencontrer le sommet de l'État ici à Kinshasa?
Nous avons un problème qui nous dépasse et qui doit trouver solution dans l'urgence. C'est le problème d'insécurité. Moi comme député provincial, j'ai d'abord contacté les autorités militaires au niveau local. Parce que vous le savez, nous sommes pendant la période d'état de siège. L'état de siège, vous le savez, que son rôle c'est de rétablir la paix sans condition. Je suis député provincial, je ne pouvais pas aller aux cieux. Je me dis, je dois même outrepasser, je dois venir à Kinshasa. Parce que j'estime que les autorités, les décideurs, les vrais, le président de la République et son entourage, pour nous, la population, nous considérons qu'il n'a pas les vraies informations. Les informations qu'il a sont des informations officielles et nous, par expérience, nous savons que le circuit officiel est plein de plusieurs affairistes. Nous avons estimé qu'il était important que nous puissions venir à Kinshasa et hausser la voix afin que les autorités puissent désormais se ressaisir et prendre des mesures salvatrices parce que notre population est dans le désarroi total.
Et parmi justement ces autorités, vous avez rencontré le chef d'état-major général ici à Kinshasa. J'imagine que vous lui avez posé tous ces problèmes. Quelles sont les réponses qu'il vous a données à court, moyen et long terme? Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à toutes ces préoccupations que vous venez d'évoquer ici?
Le chef de l'armée, ou des FARDC, il nous a écoutés. Nous lui avons expliqué toute la problématique. Nous lui avons donné les informations de terrain et le chef de l'armée a été bien réceptif. Il nous a donné des assurances quant à ce qui concerne la fin de la guerre.
À court terme, par exemple, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Vos électeurs, ceux qui vous ont élus, vous écoutent en ce moment précis. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, par exemple? Comment soulager les souffrances?
Comme vous le savez, la première réponse de l'armée, c'est dire que on ne dévoile pas les stratégies militaires. Mais à court terme, il nous a rassuré que l'armée est en train de préparer comment récupérer les entités conquises et il démontre qu'il ne tolère pas que ces entités restent sous occupation et qu'il ne peut pas nous dire le jour ou l'heure, mais que cela viendrait très rapidement.
À moyen terme,
le chef de l'armée nous a démontré l'importance d'une réorganisation stratégique rapide qui serait en train d'être faite. Et au besoin, nous lui avons posé des problèmes des personnes accusées sur la ligne de front comme état de traître. Et il nous a promis d'étudier ces problèmes le plus rapidement possible pour que la confiance entre l'armée et sa population puisse renaître, afin que la population puisse appuyer sans réserve, comme elle le fait, les avancées de nos FARDC. À long terme, il y a des problèmes des États. Là, le chef des armées a bien indiqué que notre pays est dans la diplomatie afin que, même si l'armée va récupérer les entités conquises, que la paix puisse régner. Cela dépendra d'une bonne diplomatie, d'une bonne cohabitation entre les États.
En suivant votre regard, Emmanuel Ngaruye Muhoozi, vous êtes satisfait des réponses que le chef d'état-major général vous a données?
Enfin, je ne peux pas être satisfait tout de suite. Je suis seulement optimiste.
Vous avez évoqué justement cet aspect-là. C'est la situation humanitaire. J'imagine que c'est certain que vous avez également évoqué ces questions avec les responsables ici à Kinshasa. On parle de plus de 150 000 personnes déplacées, parmi lesquelles il y a des réfugiés. Qu'est-ce que ces autorités ici à Kinshasa vous ont donné comme assurance, quoi?
Nous avons déjà rencontré pratiquement 2-3 autorités. Nous avons soumis ces drames humanitaires auprès de ces autorités parce que, comme je venais de le dire, le vendredi, un cas d'un homme, a crevé de faim. Ce n'est pas la première victime. Il y a plusieurs personnes qui viennent de décéder de la famine. Et nos élèves, parce qu'il est prévu que les cours reprennent le 5 septembre. Mais entre-temps, chez nous, nos populations sont déplacées. Dans des écoles, là où ils se sont déplacés.
Par rapport à toutes ces questions, justement, qu'est-ce que ces autorités vous ont dit?
Elles nous ont dit qu'il y a des informations, certaines petites informations qu'elles n'avaient pas, mais elles nous rassurent qu'elles doivent se déployer d'ici là pour trouver des solutions.
Donc il y a des garanties quand même que cette population pourrait être assistée dans les prochains jours?
Dans les prochains jours, selon les assurances que nous avons reçues, et nous, on ne va pas seulement croiser les bras pour attendre, on va continuer à mettre pression parce que la population qui est devenue aujourd'hui déplacée et réfugiée a droit à une solidarité nationale.
Emmanuel Ngaruye Muhoozi, je vous dis merci.